Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique. Un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel pour les jours à venir. Vendredi 6 avril, théâtre à Avion, Demandons l'impossible. C'est dans le cadre du festival Les Utopistes Debout, du théâtre documentaire qui fait suite à un projet de création 2018 de la compagnie Sens Ascensionnel. C'est ça Louis Aragon, espace culturel Jean Ferrat. Une pièce feuilleton où Mélina nous raconte son mai 68. Elle est la mère d'une famille représentative de la France de cette époque, une France qui se déboutonne lentement et dont les feuillages social et culturel fait grincer bien des fermetures. Mouninex et Dim veillent sur elle au sein de sa cuisine équipée. Pourtant, elle va oser la quitter pour voir et comprendre ce que vivent ses enfants sur les barricades ou non, son mari cheminot devenu contremaître et ses beaux-frères, l'un patron de bistrot gaulliste et l'autre prêtre ouvrier. Sa révolution à elle sans pavé, une plongée dans l'intime au cœur d'une société qui éprouve la nécessité de se changer. C'est donc vendredi 6 avril, dans le cadre du festival Les Utopistes Debout, salle Louis Aragon à Avion en soirée. Mardi 3 avril et mercredi 4 avril, grève à la SNCF. Les syndicats CFDT, CGT et UNSA appellent les conducteurs des trains SNCF à faire une grève nationale du mardi 3 avril au jeudi 28 juin 2018 à raison de 2 jours de mobilisation sur 5. C'est évidemment un choix qui peut sembler surprenant. Qui peut croire que 36 jours de grève répartis sur 3 mois seront plus efficaces qu'une grève reconductible ? La question se pose réellement. En effet, une grève est prévue pour peser sur les décisions qui seront prises. Pour cela, il faut que les décideurs aient un intérêt à entendre les demandes des travailleurs. Dans notre société où c'est l'économie et non le politique qui impose les décisions, il faut donc que les actions perturbent l'économie. C'est dans ce sens qu'une grève reconductible est plus efficace que des journées de grève disséminées, nous semble-t-il. Le syndicat Sud, quant à lui, appelle effectivement à une grève reconductible dès le mardi 3 avril, en laissant le choix à ses syndiqués de décider chaque jour, en assemblée générale, la reconduction du mouvement pour les prochaines 24 heures. De notre côté, nous ne tomberons pas dans le piège que nous tendent les médias en opposant les travailleurs du rail et les usagers. La lutte des cheminots est sans conteste également notre lutte, une lutte pour la défense du service public. Samedi 7 avril, foire aux installs. C'est à 14h au LAG, à Liévin, 23 avenue Jean Jaurès. La foire aux installs de CLIS 21, c'est une bonne occasion de franchir le pas et d'installer GNU Linux sur son ordinateur. Le principe est maintenant bien rodé. Vous venez avec votre tour et CLIS 21 vous aide durant toutes les phases de l'installation. Vous choisirez soit d'installer GNU Linux seulement sur votre ordinateur, soit d'installer GNU Linux en plus du MS Windows existant. Dans ce cas, pour gagner du temps, pensez à effectuer une défragmentation avant la foire aux installs. Il est inutile d'emmener un écran, un clavier et une souris. N'emportez que votre tour ou votre ordinateur portable. Rendez-vous donc samedi 7 avril dans l'après-midi. CLIS 21 vous accueille à partir de 14h et jusqu'à 18h. Par précaution, pour avoir suffisamment de temps d'installation et de configuration, n'arrivez pas après 15h30. C'est donc au LAG de Liévin, 23 avenue Jean Jaurès. Samedi 7 avril toujours, La Valeur, c'est du théâtre à 20h à l'Escapade à Hénin-Momont. La Valeur, c'est un écumeur de grands fonds, génie du rachat d'entreprises, prédateur, drôle, compulsif, fascinant, qui possède un furieux appétit, appétit de vie, de pouvoir, d'argent, de tout. Il a en ligne de mire une entreprise attirante car florissante. En face, le PDG qui a donné vie à l'entreprise croit en l'élargissement du bien-être général par l'industrie, aime son métier et donne le cap comme un capitaine confiant. Nous assistons alors en direct à la destruction de l'équilibre de l'entreprise traditionnelle, à l'affrontement entre deux systèmes de valeurs. Après le faiseur de Balzac, les débuts de la spéculation et le capitalisme en 1840, Robin Renucci s'empare de cette pièce de Jerry Sterner, satire du processus de fusion-acquisition et des relations entre la finance et l'industrie. C'est donc le samedi 7 avril à 20h à l'Escapade à Hénin-Beaumont. Les tarifs varient de 9€ à 11,50€. Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Aujourd'hui, je souhaite continuer à vous présenter la rubrique Zik Rebelle de notre site micro-rebelle.fr. Cette rubrique vous propose une belle sélection de musique libre avec toutes les références des morceaux proposés. Il s'agit d'une compilation de musique jouissive avec des airs qui partent aux quatre vents. Toutes les émissions Zik Rebelle sont spécialement concoctées et avec beaucoup de sensibilité par l'ami Luc. Sans attendre, voici un extrait de Zik Rebelle numéro 4. Thank you. Nous diffusons maintenant un reportage lié à l'actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Aujourd'hui, nous revenons sur la journée de mobilisation du 22 mars en riposte aux attaques contre les cheminots et le service public. Emmanuel Macron est un élève d'Alain Juppé. Il est droit dans ses bottes comme Alain Juppé en 1995. Mais ce sont des bottes de sept lieues. Là où les autres cassaient les acquis sociaux avec prudence, Emmanuel Macron a promis de tout casser d'un coup et il tient parole. Étudiantes et étudiants touchés par la baisse des APL et par la sélection, chômeuses et chômeurs touchés par la réforme de l'UNEDIC, précaires touchés par la disparition des contrats aidés, retraités attaqués sur leur pension, situation intenable dans les EHPAD, salariés matraqués par les ordonnances détruisant le code du travail, la réforme de la formation professionnelle, la démolition pierre à pierre de la sécurité sociale et des services publics, fonctionnaires austérisés par le blocage des salaires et la suppression de 120 000 postes, migrantes et migrants pourchassés, la liste semble sans fin. Soulignons tout de même que malgré son arrogance, Emmanuel Macron a repoussé la réforme des retraites au printemps 2019. Comme quoi, il a peur de la goutte qui ferait déborder le vase. Bien entendu, les grands médias s'empressent à tour de rôle de commander leurs sondages qui vont tous dans le même sens. Les Françaises et les Français seraient majoritairement opposés à la grève. Ils et elles seraient pour la fin du statut de cheminot. Il et elle jugent la réforme bonne pour l'avenir, etc., etc. C'est dans ce contexte que s'inscrivait la journée du 22 mars dernier dans la fonction publique et à la SNCF. Et il nous a semblé important de donner la parole aux manifestantes et manifestants. Nous étions donc dans la belle manifestation de Lille. C'est un reportage de Luc.
Jeudi 22 mars 2018, à l'appel d'une intersyndicale interprofessionnelle de la fonction publique, une mobilisation d'envergure nationale a rassemblé dans les rues des centaines de milliers de personnes. À Lille, où nous nous sommes rendus, une dizaine de milliers de manifestants, en ordre de marche, toutes professions confondues, cheminots, hôpitaux, collectivités territoriales, étudiants ou enseignants, cette liste est non exhaustive, étaient unis pour manifester contre la politique de dévoiement du service public, la précarisation des emplois, la flexibilisation du personnel, l'austérité budgétaire, enfin. On remonte le cortège au fil de ce reportage, essayant de restituer les doléances par secteur et les aspirations collectives. On commence avec un militant FSU de la fonction publique qui évoque la réforme CAP 2022.
Alors il y a des revendications fonction publique, il y a des revendications éducation avec la réforme du bac, du lycée et Parcoursup, le dispositif de sélection, ségrégation. Hein. Alors pour ce qui est de l'action publique 2022, on constate en fait la même chose que ce qui s'est passé dans le privé cet automne. Hein. C'est-à-dire que Macron, le gouvernement, veut absolument museler les instances représentatives. Donc, par exemple, pour nous, il réduirait les prérogatives des commissions paritaires. Voilà. Et il y aurait de plus en plus de choses qui se feraient administrativement, automatiquement, sans concertation avec les représentants des personnels. Il envisage aussi, comme pour nos camarades cheminots, de bloquer l'embauche d'emplois statutaires pour avoir de plus en plus recours à des contractuels. Il envisage même que des jeunes étudiants à peine sortis de licence, qui n'ont encore eu aucune formation à l'éducation et à l'enseignement, puissent être engagés comme contractuels à tiers-temps, donc avec une aumône de 400-450 euros par mois, ce qui, d'une part, leur permettra pas de vivre, et d'autre part, leur permettra pas de poursuivre des études sereinement. Voilà le cadre général.
Le cadre général, c'est aussi l'austérité budgétaire, parce que avec l'horizon de CAP 2022, c'est de faire 4,5 milliards d'économies par an.
Oui, bah alors, cette histoire d'économie budgétaire, on nous la vend essentiellement sous le nom du remboursement de la dette publique. Hein. En fait, depuis que l'État français a signé ce qui s'appelle la règle d'or européenne et donc la limite de déficit de 3%, hein, il se plie à ce diktat européen. Hein, et du coup, ben, ils font des économies là où c'est le plus facile d'en faire, c'est-à-dire sur tout ce qui touche les services publics en général, la fonction publique en particulier, puisqu'il y a une petite nuance quand même entre les deux terminologies. Alors, en matière d'économie, on voit les annonces qui ont été faites pour l'armée, hein, et notamment pour tout ce qu'ils appellent les OPEX, donc les opérations extérieures, c'est-à-dire aller faire la guerre dans des pays qui ne sont pas les nôtres. Ensuite, quand dans un corps de métier, on crée pour le même travail deux catégories de personnes, si je reste sur la fonction publique des emplois statutaires et des contractuels, on casse toute la solidarité du métier, hein, et en même temps, on se préserve d'un pas mal de luttes sociales, puisque pour les mêmes métiers, les enjeux ne seront pas les mêmes et la mobilisation s'en ressentira. Donc c'est une démarche beaucoup plus idéologique que financière, économique.
Des conséquences de l'austérité budgétaire dans les hôpitaux commencent à avoir des effets très très néfastes. Est-ce que vous pouvez témoigner de ça dans votre CHR ?
Oui, donc moi je suis du JUS CHR de Lille. Donc évidemment, donc au niveau national, hein, de toute façon, ce qu'on va pouvoir dire sur le CHR de Lille, on pourra le dire partout. Vous avez sans doute vu aussi que depuis ces derniers mois, il y a une soixantaine de services d'urgence dans tous les hôpitaux de France qui sont en grève et en conflit. Ce qui se passe dans les services d'urgence, c'est exactement la conséquence de toutes les politiques d'austérité, de suppression de lits, de transformation de lits en places d'ambulatoires, qui fait que quand vous avez une influence aux urgences, forcément ça sature, puisqu'une fois que les gens sont soignés aux urgences, il n'y a plus de lits pour aller les hospitaliser dans les étages. À partir du moment où on ne peut pas les monter dans les étages, ben ça reste saturé aux urgences. Vous avez des files d'attente, vous avez des salles d'attente bondées et vous avez des tensions qui se créent évidemment. Vous avez de la violence. Donc tout ça, véritablement, le nœud de l'hôpital, c'est le service d'urgence. C'est la porte d'entrée de l'hôpital. À partir du moment où à la porte d'entrée de l'hôpital, ça sature, c'est que tout le reste derrière est saturé. Donc voilà, quand on voit qu'il y a une soixantaine de services d'urgence au niveau national qui est en grève, en conflit et qui dénonce hein, justement les files d'attente et l'incapacité, l'impossibilité aujourd'hui de prendre en charge les gens dans des délais courts est nécessaire parce que quand on se présente aux urgences, c'est que en général c'est nécessaire. Qui implique d'ailleurs dans certains services d'urgence qu'il y a eu des patients décédés en attente. Donc dans un hôpital public, à un moment, c'est pas possible, quoi. C'est pas tolérable ce qui est en train de se passer. Donc on a un service des urgences qui est complètement saturé, avec une prise de risque pour les patients qui se retrouvent dans les services d'urgence. Et on nous dit qu'on va continuer à supprimer des lits, à fermer et à transformer des lits en ambulatoires. Donc ils continuent la même politique. Le deuxième point, c'est qu'on nous dit que l'hôpital public, il faut faire des économies, il n'y a plus d'argent dans ce pays, les caisses sont vides, on a une dette, les fonctionnaires coûtent cher. Donc voilà, hein, c'est tout l'AIUS qui est servi dans la presse depuis des semaines, des mois, voire des années. Et que ce n'est pas très grave, puisque l'hôpital public, il doit ouvrir ses portes et ses murs vers la ville et donc renvoyer les patients vers les médecins généralistes et vers les spécialistes qui ont des cabinets libéraux en ville, sauf que eux-mêmes sont surchargés. Donc de toute façon, ils ne peuvent pas absorber. Prenez un rendez-vous aujourd'hui chez un ophtalmo, prenez rendez-vous chez un cardiologue, vous avez plusieurs mois d'attente. Donc ils ne sont pas en capacité de toute façon d'absorber l'activité que l'hôpital leur renvoie. Et tout ça, on le sait. Tout le monde le sait. Et si moi, agent de base dans un CHR en France, je suis au courant et j'analyse ça, je pense qu'au niveau politique, ils l'analysent. Parce que s'ils n'analysent pas, c'est qu'ils sont sacrément incompétents.
Pourquoi aujourd'hui, ben vous êtes dans la rue pour manifester ? Donc Alliance, la police nationale.
Oui, bien sûr, mais comme tous les fonctionnaires qui sont ici aujourd'hui pour la baisse de notre pouvoir d'achat.
Et puis peut-être aussi sur les conditions de travail.
Tout à fait, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles et il faut toujours faire plus avec moins. Moins de budget alloué, moins de matériel et ça devient très compliqué de travailler correctement. Avec peu de moyens, c'est très compliqué. Et aussi, la suppression annoncée de 120 000 postes de fonctionnaires. Que va devenir le service public ? Oui, le jour de carence a été rétabli pour tous les fonctionnaires. À partir du premier jour de maladie, le fonctionnaire n'est plus payé. Donc sur des salaires qui ne sont quand même pas très élevés, ça fait un gros manque à gagner. Et des gens vont hésiter de se soigner ou reprendre avant d'être complètement guéri. Et ce qui va coûter encore plus cher au final, parce qu'il faudra re-soigner derrière.
Est-ce que vos collègues, finalement, qui ne peuvent pas manifester, comment on voit votre mobilisation ?
Les collègues sont tout à fait de notre côté, ils comprennent notre mobilisation, ils nous soutiennent. Malheureusement, on aurait aimé qu'il y ait encore plus de monde. Il y a déjà du monde, mais si tous les collègues avaient pu se joindre à nous, ça aurait été mieux.
Et peut-être, est-ce que vous allez continuer par la suite à vous mobiliser ?
Ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui. On verra déjà aujourd'hui les retombées de notre mobilisation. Et oui, bien sûr, on est prêt à continuer.
J'ai lu ce matin même un rapport de la CGT qui faisait une analogie avec France Télécom et qui du coup accusait le gouvernement de duperie dans le sens où il tentait de faire une privatisation en catimini avec l'ouverture du capital. Oui. Est-ce qu'on peut dire quelques mots là-dessus ?
Ça fait des années où la CGT dit qu'on veut privatiser la SNCF et on fait tout pour y arriver. Les faits sont là aujourd'hui, c'est qu'on stigmatise le statut du cheminot pour détruire derrière le service public. On nous parle de la dette des SNCF, mais la dette, ce n'est pas les cheminots qui l'ont fait, la dette. C'est tous les gouvernements successifs qui n'ont pas investi, qui n'ont pas repris la dette. Et aujourd'hui, on en est à ce que la SNCF soit complètement endettée. Voilà.
On se doute bien que les cheminots vont être accusés d'avoir pris en otage la population. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
J'aime pas ce terme otage. Aujourd'hui, on se défend. Effectivement, ça gêne les usagers qu'il n'y ait pas de train, mais c'est notre seul moyen où on a aujourd'hui de s'exprimer. Voilà. Et c'est pas faute d'avoir prévenu le gouvernement à plusieurs reprises qu'il y aura un mouvement dur aujourd'hui. Il veut rien attendre. Eh bien, on persiste dans le mouvement dur. Voilà.
Tout à l'heure, on parlait de la privatisation et tout le problème que ça pose, c'est qu'on se doute que dans des conditions telles, on ne pourra plus faire du train un service public. Et notamment, les deux prérequis à ça, ce serait l'égalité d'accès et péréquation des tarifs.
Oui, bon, effectivement, aujourd'hui, il y a sur le dossier du gouvernement, c'est aujourd'hui, on supprime des lignes TER. Alors que forcément, quand vous parlez d'égalité de traitement, c'est-à-dire que les lignes qui aujourd'hui ne seront pas rentables seront fermées. Alors, on a beau dire qu'on ne fermera pas, mais on sait qu'à terme, ces lignes seront reprises par les conseils régionaux qui seront n'auront pas les moyens d'entretenir les lignes. Donc forcément, il y aura faire des fermetures de lignes. Donc forcément, égalité, traitement envers tous les usagers. Deuxièmement, sur les tarifications, on voit dans les pays où on a ouvert à la concurrence que les prix ont explosé. Je prends par exemple l'Angleterre, où aujourd'hui les tarifs sont multipliés par 6, où on demande retour à la nationalisation des chemins de fer. Donc une fois encore, ça prouve que voilà, où est-ce qu'il y a privatisation ? Il y a forcément augmentation des tarifs et pas forcément un meilleur rendu aux usagers.
Donc j'imagine que l'objet de la mobilisation pour les professeurs de lycée, c'est la réforme du bac.
C'est ça, tout à fait.
En quoi ça vaut le coup de s'y opposer ?
Alors parce qu'en fait, on va augmenter la sélection au niveau de l'université. Et surtout, c'est que le baccalauréat va perdre son statut de premier grade universitaire, ce qui fait qu'il ne donnera plus automatiquement accès à l'université. Donc, possibilité d'écrémage, de tri social, et ce qui va carrément à l'encontre de l'objectif du service public et de l'école républicaine.
Alors, on a dit également que ça allait favoriser, individualiser les lycéens, les isoler.
Alors, et même plus grave que ça, c'est qu'on sait qu'il y a des start-up qui sont montées sur l'île et qui proposent contre rémunération entre 3 et 500 euros pour monter un dossier tip-top pour que le gamin puisse intégrer les meilleures écoles.
Est-ce que ça va impacter les profs aussi ?
Compte tenu qu'il va y avoir fusion de certaines filières, on va certainement se retrouver avec une réduction des effectifs, donc des pertes de postes qui vont se répercuter. Sachant que Macron a promis la suppression de 120 000 postes, l'éducation nationale a contribué à hauteur de 25 000 postes. Donc il faut bien trouver ces postes-là quelque part.
Je suis étudiant à l'île 3 en L1 d'histoire.
D'accord, donc aujourd'hui ces manifestations contre le plan étudiant, est-ce que tu pourrais expliquer brièvement pourquoi tu t'opposes à cette mesure
Parce que cette mesure, au final, ça va nous permettre, enfin, ça va permettre de jarter en fait la plupart des lycéens en fait qui veulent entrer en fac dans ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas en fait qui vont pas pouvoir être acceptés parce que ça va être juste impossible à gérer aussi administrativement et qu'ils vont faire des quotas et qu'ils vont devoir sélectionner. L'administration va pas pouvoir gérer ça. Et au final, ça va être en plus par option, c'est-à-dire que c'est plus le bac, ça va être par option. Et ce qui veut dire en soi que c'est par rapport à quel lycée tu as pu faire, donc à quel lycée, comment dire, pour avoir de meilleures options, de meilleures matières à proposer, que tu vas avoir une meilleure fac ou une meilleure université en soi. Ce qui veut dire que ça, l'égalité des chances est plutôt respectée. Au final, c'est à celui en fait qui a les parents les plus aisés, qui va permettre de le pouvoir amener en fait dans les lycées les mieux cotés, qui va pouvoir avoir les meilleures études.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis quel corps de secteur vous représentez?
Aïssa, nous personnellement, on est dans le service public de l'emploi. Donc plus précisément le Pôle emploi, hein, donc, qui est quand même l'outil, le bras armé de la politique publique au regard de l'emploi. Et voilà, aujourd'hui on est ici au même titre que les autres services publics, puisque nous sommes une entreprise de mission de service public.
Donc quels sont les enjeux aujourd'hui? Pourquoi vous défilez ce 22 mars?
Je crois qu'il faut avoir conscience que l'événement, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est que véritablement, je pense que l'État est en train d'envoyer un message à tous: nous nous désengageons, débrouillez-vous individuellement. Or, je dirais, ce qui fait la force d'un pays, c'est justement qu'il y ait un État fort pour des services publics forts, pour que justement, que ce ne soit pas livré à des problématiques individuelles. Voilà.
Plus particulièrement, à Pôle emploi, qu'est-ce qui se passe?
C'est mise à distance des demandeurs d'emploi, un service qui est rendu de manière très éloignée puisque c'est le tout digital qui est prévu. On ne travaille plus avec en fait la personne. Tout est dématérialisé. Donc je dirais sur cet aspect-là, je pense que là encore, hein, la stratégie au bout du bout, ça sera bien justement la numérisation, la digitalisation et la personnalisation des activités pour justement pouvoir opérer plus facilement sur le secteur privé.
Et vous, de votre point de vue, donc vous êtes salarié public de cette structure-là, comment vous, finalement, vous êtes perçu maintenant?
Aujourd'hui, au niveau du Pôle emploi, il y a deux statuts qui coexistent. Il y a des statuts publics et des statuts privés. Pour autant, ceux qui sont, que ce soit les collègues du statut privé ou public, ce qu'on voit bien là, je veux dire, c'est véritablement notre mission qui est attaquée. Véritablement, c'est-à-dire que là, il y a des moments où il faut rechercher du sens à ce qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire qu'on a des demandeurs d'emploi, on a aussi des employeurs qui souhaitent bénéficier de nos services, et de plus en plus, c'est une distance qui est opérée. Et donc, quasiment parfois, en incapacité d'agir, véritablement. Si ce n'est qu'obéir aux règles statistiques du nouveau management, uniquement faire du chiffre.
En qualité de quoi vous manifestez? Est-ce que c'est général ou est-ce que vous êtes un professionnel concerné?
Alors oui, je suis concerné. Moi, je suis éducateur de profession et je suis concerné parce que notre secteur, il est en ce moment visé par le haut ministère à l'économie sociale et solidaire, le haut ministère, donc Christophe Hitchier, qui est en train de dézinguer notre secteur. Et donc là, on a monté un collectif qui s'appelle le Social Déchaîné. Et donc oui, aujourd'hui, on se sent concerné, c'est pour ça qu'on est là. En fait, il y a une offensive là. Des financiers qui en gros veulent marchandiser le travail social. Donc en gros aujourd'hui, là où c'est l'État aujourd'hui qui subventionne les associations qui bossent avec les SDF par exemple ou en protection de l'enfance, dans quelques mois ça sera des privés. Ça sera des privés qui vont investir à la place de l'État avec en contrepartie un remboursement si les objectifs sont atteints et des intérêts.
Ah, c'est le cas avec les fameux hôtels.
C'est ça. Par exemple, oui, c'est ça, exactement.
Est-ce que tu peux me donner ce cas-là? Parce que ça, c'est assez parlant.
C'est pour Adoma, en fait. Donc Adoma, en fait, c'est un fonds de pension qui a remporté un appel à projet. Voilà, ils ont été moins chers que tout le monde, forcément. Et donc, ils ont racheté les hôtels Formule 1. Voilà, donc là, ils ont commencé à loger des gens. C'est des réfugiés, il me semble, ou des demandeurs d'asile. Mais dans des conditions, il n'y a pas d'accompagnement social, tu vois, c'est de l'hébergement.
Est-ce qu'il y a des revendications, des objectifs à court terme?
Nous, notre objectif, il est clair, c'est que l'État continue d'assumer sa mission d'accompagner ceux qui en ont besoin. Donc, comme tu disais tout à l'heure, en protection de l'enfance, par exemple, où, là, dernièrement, les assos ont signé ce qu'ils appellent des CEPOM, des contrats pluriannuels de projet, et avec des diminutions sur 3 ans de 15%. Voilà. Et ça, c'est la protection de l'enfance. Et donc, c'est notre ambition, c'est de faire reculer cette offensive, de faire en sorte que le travail social reste à la charge de l'État et qu'il ne soit pas investi par les financiers qui n'ont aucun autre intérêt que de se faire, de la thune sur la pauvreté.
Les retraités sont plutôt maltraités en ce moment. Hein, le 1,7% de CSG en plus, ça nous fait une amputation de nos retraites. C'est inadmissible, sachant que les plus fortunés, eux, sont exemptés d'efforts. Ils sont exonérés de l'impôt sur la fortune.
On parle également d'une espèce de saupoudrage qui diviserait un peu, qui désunirait la mobilisation. Est-ce que malgré tout, les retraités ont envie d'aller jusqu'au bout ?
Oui, j'en ai entendu parler. 1000 retraités et pour l'année prochaine. L'année prochaine, on rase gratis. C'est connu, ça. 1000 retraités sur 13,5 millions de retraités. Faites le rapport.
Après ce tour d'horizon des revendications par secteur, et nous nous excusons pour ceux que nous n'avons pas pu interroger, il est important de rappeler que le fait marquant de cette mobilisation est l'unité dans le rassemblement, unité qui confère davantage de légitimité auprès de l'opinion publique et de poids dans le rapport de force avec le gouvernement.
Aujourd'hui, je ne suis pas seulement là pour défendre mon statut de fonctionnaire à l'hôpital. Je suis là aussi pour défendre la qualité du service public hospitalier. Je suis susceptible d'être usagée aussi demain. Moi, demain, je suis susceptible d'amener mon père aux urgences et de savoir tout ce qui s'y passe et en tout cas tout ce qui ne s'y passe pas. Donc, je suis là en tant que fonctionnaire. Je suis là en tant qu'usager des services publics, donc potentiellement à l'hôpital. Potentiellement les collègues pompiers. Vous allez voir dans la manif que les collègues pompiers sont là, qui vivent exactement la même situation que nous et que plein d'autres. Donc on est là pour défendre aussi un modèle de service public qui est unique, c'est le modèle français, et qu'il faut défendre parce qu'à une époque, aujourd'hui on nous dit que c'est une tare, il faut quand même se rendre compte qu'à une époque, le monde nous regardait en disant qu'on avait le plus beau modèle social du monde et le plus beau modèle de santé, et aujourd'hui on nous dit que c'est une tare. Donc c'est le monde à l'envers. Donc la véritable question, c'est dans quel monde on a envie de vivre, hein, celui qui nous propose ou celui qu'on est en train de perdre.
Est-ce que justement le fait que ce soit interprofessionnel, ça peut peser dans le rapport de force ?
Mais moi je pense qu'il est toujours possible de faire plier tous les pouvoirs. Dans les plus grandes dictatures du monde, ça s'est fait. La véritable question, c'est comment on va établir un rapport de force. Donc le fait qu'on soit en interpro, ben, ça permet d'être plus nombreux. Moi, je pense aujourd'hui que l'enjeu, comme je vous disais, je suis là en tant que fonctionnaire, mais je suis là aussi en tant que potentielle patiente de l'hôpital. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui peut faire basculer, ce qui va être nécessaire, c'est que ça devienne un mouvement citoyen. Il faut que tous les citoyens, je ne leur demande pas de défendre mon niveau de salaire, je leur demande de défendre l'hôpital tel qu'on le connaît, qui repose sur la solidarité, qui a une obligation de continuité, qui a une obligation de résultat vis-à-vis de la population. C'est de cet hôpital-là dont on a besoin, donc défendons-le avant de l'avoir définitivement perdu.
Je constate qu'il y a énormément de secteurs professionnels. Est-ce qu'on ne peut pas croire, supposer une désunion, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils vont accepter les revendications de tel secteur professionnel et pas d'un autre pour diviser l'union qu'il y a aujourd'hui?
Ils vont peut-être tenter. Après, je crois pas, parce que ce gouvernement, il a l'air vraiment décidé à aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il tape tout azimut, c'est pour ça qu'il y a autant de monde aujourd'hui. Voilà, il fait le pari de taper partout en espérant que ça se mobilise pas et qu'on ne sache plus où aller ou tu vois, où donner de la tête. Et finalement, non, chaque secteur est là. Et je pense qu'ils vont vouloir aller jusqu'au bout. Et je pense que nous aussi, on va devoir aller jusqu'au bout.
C'est-à-dire que même si il accepte vos revendications, vous viendrez quand même aux prochaines manifestations pour l'hôpital public ou pour la fonction publique ?
Ah oui, bien sûr. Oui, on continuera à défendre un service public de qualité, la SNCF. Moi, la réforme des cheminots, c'est clair, tu vois, là, je suis éducateur, mais la réforme des cheminots, ça me concerne. Non pas parce que je suis cheminot, mais parce que je suis usager. Et donc, bien sûr qu'on continuera, même si aujourd'hui ils acceptent nos revendications, je crois pas, parce que c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est vraiment en marche. Christophe Hitchet, il a un mandat, c'est de faire du travail social un marché comme un autre. Voilà, donc on va aller jusqu'au bout, on verra.
C'est que par une convergence en fait, de tous les secteurs d'activité qu'on va pouvoir réussir en fait, à vraiment faire reculer le gouvernement. Parce que là, actuellement, le gouvernement, il attaque sur plein de sujets en même temps, les EHPAD, il attaque sur les cheminots, il attaque... il attaque aussi sur l'immigration aussi, il attaque les chômeurs. Et c'est seulement avec une réunion en fait, de toutes ces forces-là qu'on pourra vraiment réussir à faire quelque chose. Mais j'espère, oui, qu'on va réussir à faire reculer le gouvernement. Mais pour l'instant, cette manif-là, elle a l'air d'être bien. Et c'est la première fois depuis un petit moment, depuis le travail, clairement, en fait, qu'on voit un mouvement comme ça. Et il faut espérer juste que ça continue, en fait, semblant.
Ça continuera jusqu'où? Est-ce qu'on va bloquer les facs?
Faut espérer. Pour l'instant, on est en train de faire monter le mouvement, ça commence à prendre et on espère oui pouvoir aussi bloquer les facs d'ici peu en soi.
Bien sûr, il faut encourager cette unité interprofessionnelle et même intergénérationnelle parce que le gouvernement essaye de diviser les Français pour que lui puisse mieux régner et appliquer sa politique d'austérité. Voilà.
Vous allez continuer à vous mobiliser dans les prochains jours, les prochains mois ?
Bah écoutez, nous, de toute façon, on est mobilisés très honnêtement depuis, les lois travail, hein, puisque tout ça est annoncé. On voit bien que tout ça est un ensemble qui est bien pensé. Aujourd'hui, le service public, mais hier, sur la loi travail, on voit bien que le marché est dominant et la volonté de tout privatiser, et que ce soit aujourd'hui des services... comme l'emploi, mais aussi, on le voit, sur la santé, sur le ferroviaire. Donc, évidemment, que la mobilisation, elle va continuer.
N'essayez pas d'avancer pas à pas. Définissez clairement vos objectifs et approchez-vous-en par bond en avant qualitatif afin que les intérêts catégoriels n'aient pas le temps de se mobiliser et de vous embourber. La vitesse est essentielle. Vous n'irez jamais trop vite. Une fois que l'application du programme de réforme commence, ne vous arrêtez plus avant qu'il soit terminé. Le feu de vos adversaires perd en précision quand il doit viser une cible qui bouge sans arrêt. Dixit René Douglas en novembre 1989 en Nouvelle-Zélande, cité par Serge Halimi dans le dernier numéro du Monde diplomatique. C'est bien cette stratégie du choc qu'emploie le gouvernement en frappant tous azimuts, comme le dit l'un des manifestants rencontrés. En frappant dans tous les secteurs d'activité de la fonction publique et en poursuivant l'application des mesures de la loi travail au service public, c'est bien une démobilisation ou une neutralisation que recherchent ces réformes dans l'urgence. Que cette mobilisation réussie démente le procédé, cela reste à voir. Prochaine grève et manifestation en avril, grève que les cheminots annoncent dure. C'était un reportage de Luc Chaden pour Micro Rebelle, web radio du bassin minier.
Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Eh bien, je vais de nouveau vous proposer une Zik Rebelle. Je vous en parlais tout à l'heure. Zik Rebelle est une compilation de musique libre et jouissive, avec des airs qui partent aux quatre vents et que vous pouvez retrouver sur notre site micro-rebelle.fr. Micro et rebelle au pluriel. À la rubrique Zik Rebelle, bien sûr, avec toutes les références et morceaux proposés. Je vous signale que toutes les émissions Zik Rebelle sont spécialement concoctées avec une grande sensibilité par l'ami Luc. Sans attendre, voici donc un extrait de Zik Rebelle numéro 4. C'est maintenant l'heure de notre reportage sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Tous les reportages de Microrebelle peuvent être podcastés et téléchargés dans leur intégralité sur notre site micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel. Nous en diffusons aujourd'hui un extrait dans ce Microrebelle hebdo sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Si cet extrait vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter l'intégralité du reportage sur le site de notre web radio. Pour cet extrait, nous vous proposons le dernier épisode de notre cycle radiophonique consacré à l'agriculture paysanne. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce cycle en intégralité sur micro-rebelle.fr à la rubrique « Reportage ». Pour la troisième et dernière partie de ce cycle, nous retrouverons Jean-Luc Malpeau, paysan en retraite, qui s'est engagé toute sa vie dans la défense et la promotion de l'agriculture paysanne et a contribué à la mise en œuvre du réseau régional des organisations qui s'inscrivent dans cette sensibilité. La Confédération paysanne, Avenir 59-62, le CEDAPA, Terre de Liens, le réseau des AMAP, etc. Cet échange exceptionnel est l'occasion de revenir sur l'histoire de l'agriculture paysanne en région, ainsi que sur les enjeux auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Par ailleurs, pour éclairer la réalité de l'agriculture paysanne aujourd'hui, ces trois émissions donnent également la parole à des porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur des petites fermes ou à des paysans nouvellement installés, ainsi qu'à des paysans qui viennent juste de partir en retraite. Dans ce troisième volet, ce sont Olivier et Karine que nous écouterons. En voici donc quelques extraits.
Bonjour, je m'appelle Karine. Je suis en voie d'être paysan. Je suis en train de m'installer avec mon compagnon dans le début de l'Avesnois, en maraîchage biologique et production de plantes aromatiques et médicinales. C'est une reconversion. Avant, j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'édition. Et j'habitais à Paris, voilà. Et par ailleurs, je suis bénévole et administratrice d'une association qui s'occupe d'accompagner les gens, dans mon cas en fait, qui veulent s'installer en agriculture mais qui ne sont pas issus du monde paysan et qui ont des projets d'installation un petit peu atypiques par rapport au monde agricole traditionnel.
Très bien, alors comment s'appelle cette association ?
Elle s'appelle Avenir 59-62.
Tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est, ça concerne qui, qu'est-ce que c'est que ces projets dont tu nous parles, le tien notamment, puis d'autres, dont s'occupe Avenir ?
Donc c'est une association qui a été créée pour donc soutenir les projets d'installation en agriculture paysanne. Et donc les projets dits atypiques, enfin, c'est la vision de la Chambre d'agriculture en fait. Donc atypique, il faut savoir que le maraîchage est déjà considéré comme atypique, même s'il l'est sans doute de moins en moins et que les institutions commencent à mieux connaître. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un système de ferme polyculture-élevage à grande échelle avec des recherches de profit. Enfin, bon, voilà. C'est vraiment une agriculture paysanne plus à taille humaine avec une volonté un peu de progrès. De progrès social, enfin de d'épanouissement individuel aussi, enfin voilà, des recherches en fait, les beaucoup de porteurs de projets qui vont dans cette direction sont recherchent aussi un meilleur équilibre de vie. Souvent ils ont quitté des boulots un peu qui étaient bien payés, mais où la part humaine était beaucoup moins importante.
Ce qui est ton cas typiquement? Tu disais que tu viens de l'édition.
Un petit peu. Oui, moi j'étais pas dans un cas extrême. C'était mon boulot, était pas si mal. C'est juste que moi j'en avais marre de la ville. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. C'est vrai que la structure entreprise me convenait à moitié aussi. Mais j'étais pas non plus dans le pire des cas. Mais oui, j'avais un désir de retourner plutôt à la campagne. Au départ, je pensais même bosser à distance. Et puis finalement, le défi de créer son activité et d'être un petit peu autonome. M'a tenté, quoi.
L'a emporté.
Voilà.
Alors justement, ben, donc je suis jeune, ce que je fais dans mon boulot me plaît pas, j'envisage de faire du maraîchage, donc qu'est-ce qui se passe? Je vais voir Avenir, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que va faire Avenir pour moi?
Avenir, dans un premier temps, va tout dépend. Enfin, si c'est vraiment juste une idée qui me passe par la, tête, l'avenir va commencer par m'inviter à creuser un petit peu, c'est-à-dire en allant voir un petit peu la réalité sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup... Je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de rêves en ce moment sur le monde agricole. On projette beaucoup, beaucoup de choses qui ne correspondent pas forcément toujours à la réalité. C'est un milieu qui n'est quand même pas facile, même si on n'est pas dans le milieu agricole traditionnel. Ce n'est pas, un travail très, très facile. Et d'ailleurs, moi, je remarque un paradoxe, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des burn-out et des gens qui n'étaient vraiment pas bien dans leur travail, qui arrivent dans un changement, qui sont déjà fragilisés et qui finalement veulent choisir un métier où ça va être aussi très dur. Enfin, c'est un peu... Mais après, pour certains, ça prendra, pour d'autres, non. Et parfois, ça sera juste une étape vers autre chose. Et c'est plutôt, je pense que ça marque un retour vers un désir de plus, d'authentique.
Alors, tu parles d'un métier très dur. Qu'est-ce qui est dur dans, dans l'activité de paysan ? C'est quel temps de travail ?
C'est temps de travail est assez important. Après, je pense que la densité du travail est peut-être, par contre, moins importante pour ce qui est travaux des champs, par exemple. Moi, je sais que je vais passer beaucoup plus facilement 8 heures dans le champ que 4 heures devant mon ordinateur. Enfin, en termes de charge mentale, c'est pas la même chose. Après, ce qui est difficile, c'est de tout combiner, parce que surtout, on est beaucoup dans des projets vente directe, on veut diversifier, faire de la transformation. Enfin, en gros, quand on arrive dans un projet comme ça, vu l'extérieur, on a envie de tout faire d'un coup. Enfin, moi, c'est vraiment mon cas, faire des plantes, faire les transformer, les vendre en direct, voilà, faire des formations, des animations, enfin... Donc voilà, déjà, il faut savoir faire la part des choses dans tout ça, savoir les combiner. Donc il ne faut surtout pas commencer en faisant tout. voilà, donc ça, c'est quand même un vrai travail de gestion, qui est quand même bien prenant aussi, sans parler de toute la comptabilité et tout ça, et la gestion d'entreprise. Et puis, surtout les premières années, il y a quand même tout ce qui tourne autour de l'installation, qui est particulièrement difficile, en fait. Les recherches de terre, les confrontations, enfin, confrontations pas forcément en opposition, mais se confronter aux réalités des institutions agricoles, faire toutes les démarches, c'est pas les démarches les plus évidentes qui soient, quoi. C'est un peu... Je pense que dans l'administration, l'agricole est assez haut placé pour sa complexité.
Très bien. Alors, donc, justement, hein, avec un petit peu ta sensibilité à venir, puis ta sensibilité pratique, hein, avec ton compagnon, comment est-ce que tu vois, d'une manière générale, la réalité du monde paysan, son évolution aussi, son devenir, qu'est-ce qui prédomine chez toi ? C'est l'optimisme ? C'est un questionnement permanent
C'est un peu les deux. Enfin, je dirais pas pour le monde agricole plutôt que le monde paysan. Moi, j'ai l'impression qu'on va dans deux directions en même temps, en fait. Qu'il y a d'un côté les très gros et l'agro-industrie qui ne fait qu'augmenter et qui est de pire en pire. Et de l'autre côté, il y a un retour... justement avec des petits projets, les consommateurs qui ont envie de retrouver le lien avec les agriculteurs, et inversement. Et donc ça, je trouve ça super positif, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans ce sens, pour peu qu'on mette pas trop de bâtons dans les roues. Je pense que ça ne peut être que... Je pense que ça va, on va vraiment évoluer dans le bon sens. Tout dépendra après, évidemment, des décisions en haut lieu, si vraiment ils sont décidés à laisser faire ça ou pas, quoi, mais... A priori, si la dynamique qui est en route continue, c'est plutôt positif, quoi. Mais après, c'est vrai que de l'autre côté, il y a quand même toute une part du monde agricole et agroalimentaire qui est bien loin de tout ça. Et ça, il faut pas se le cacher non plus, quoi. Et on n'est pas encore prêt de nourrir tout le monde en France avec la petite agriculture biologique ou paysanne, quoi.
Bien, je te remercie. Alors, une toute dernière question, peut-être très, très pratico-pratique, hein. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'activité que tu as avec ton compagnon? Tu parlais de vente directe, c'est du maraîchage, tu parlais de plantes aromatiques. Concrètement, vous faites quoi? Vous commercialisez quoi? C'est où? On peut vous trouver où? On peut vous soutenir comment? Enfin.
Alors nous, on a créé une petite structure qui s'appelle le Panier de la Tournichette à Warny-le-Petit, donc c'est entre Valenciennes et Maubeuge, juste au milieu, c'est vraiment les portes de la Vénois. Donc on cultive surtout des légumes sur à peu près, pour l'instant on a 8000 m2, et dont une parcelle qui est à 10 km de chez nous, c'est pas très pratique, mais on a les serres tout près de la maison, ça c'est mieux. Donc on cultive, on a au moins une trentaine de légumes, hein, ça, de cultures plus classiques de conservation, carottes, pommes de terre, betteraves, jusque des cultures de serres comme tomates, poivrons, aubergines, voilà. On essaye d'avoir des variétés un peu diversifiées, parce qu'on vend, en fait, on fait donc de la vente directe, essentiellement sous forme de panier, même si pas seulement. On fait pas partie d'une AMAP, mais on a gardé un peu le système de panier qui nous permet de d'écouler, d'optimiser au mieux l'écoulement de notre production. Comme on a une très petite surface, on peut pas trop se permettre d'avoir de pertes. Et du coup, on propose un panier toutes les semaines à 15 euros ou à 20 euros, et puis les gens disent OK ou pas. Enfin, eux n'ont pas d'engagement. Et voilà, ils choisissent le panier. Après, s'ils veulent prendre quelque chose en plus, ils peuvent, et c'est payé en plus. Enfin, il y a une liste de légumes au détail aussi. En vrai, on remarque que 80% des gens au moins prennent le panier, quoi. Donc, voilà, ça leur permet de découvrir des légumes. Moi, je leur fais une petite newsletter toutes les semaines pour leur expliquer un peu la vie de la ferme, les légumes, comment les cuisiner, tout ça. Et on sent vraiment qu'ils ont envie de, ils accrochent à ça, ils ont envie de redécouvrir, quoi.
Et tu parles de newsletter, il y a aussi un site internet?
Il y a un blog, oui. Enfin bon, après, concrètement, il reprend la newsletter. Au début, il y avait d'autres choses, mais là, c'est rare qu'il y ait un nouveau.
Mais peut-être pour le signaler aux auditrices, aux auditeurs.
Oui, voilà. Ouais. Bah, c'est... Alors, on n'a pas encore réussi à le mettre sous un vrai nom de domaine. Donc, c'est tournichette.wordpress.com. Mais si on tape tournichette sur Google, on tombe forcément sur nous.
Très bien. Bah, merci, Karine. Voilà. Et puis, bonne continuation et bon courage.
Merci.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr et sur PFM99.9. Radio associative, libre et sans pub. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. L'hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.